Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons devancer la rencontre virtuelle entre Vladimir Poutine et Joe Biden qui a lieu demain. Ils vont parler d'Ukraine ensemble. Nous sommes toujours entre menaces réciproques et bluffs à la frontière avec le Donbass. Mais on aimerait savoir si tout peut dégénérer en une étincelle et nous posons la question dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Palestine où se joue l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Et vous verrez combien ce texte vieux de 2 siècles et demi parle aux Palestiniennes et aussi à nous. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a donc trouvé une station de ski espagnole qui se rhabille en montagne tout court. Une répression de plus en plus folle en Birmanie. Et les nouveaux influenceurs japonais qui sont, figurez-vous, en 3D. 18h50, le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour, avec notamment l'Amérique qui cherche sa vice-présidente. 18h55, le monde d'après et Franck Madvon. Savez-vous, ce qui se porte très bien dans le monde, eh bien, ce sont les ventes d'armes. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Tatiana Castrueva-Jean.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du Centre Russie de l'IFRI, l'Institut pour la Recherche Internationale. La rencontre demain, donc je le disais, ça va se passer en visio évidemment entre Joe Biden et Vladimir Poutine aura pour centre l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire que Moscou peut désescalader potentiellement ou ça veut dire qu'il a parfaitement réussi son coup de bluff cette rencontre hein?
C'est possible qu'on assiste à une désescalade par la suite. Je lisais tout à l'heure un article et en fait c'est seulement à la fin de l'article que je me suis rendu compte qu'il datait du 15 avril.
Mmh,
donc c'est une situation qu'on a déjà connue, même si aujourd'hui on dit la situation est plus inquiétante, il y a plus de troupes et tout ça c'est accompagné par une rhétorique beaucoup plus forte, beaucoup plus négative vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis du président Zelensky, que Poutine se sent plus fort parce qu'il y a eu la crise énergétique, parce que les Américains se sont retirés de l'Afghanistan. Donc ils sont plus faibles, etc. Mais il y a un certain contexte qui me rappelle beaucoup ce mois d'avril. Donc on appelle ça dans notre langage d'expert escalade pour la désescalade, faire monter les enchères pour ensuite avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et des positions de négociation plus confortables.
Mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud et jusqu'à quel point. Vous le disiez effectivement, au mois d'avril c'était la même chose, il y avait quand même beaucoup moins de soldats russes postés comme ça aux frontières qui menaçaient d'entrer sur le territoire ukrainien.
Semble-t-il qu'il y en avait moins, oui. Ouais.
Et ça s'était terminé, rafraîchissez-nous la mémoire quand même, ça s'était terminé comment en fait ?
Ça s'est terminé par la proposition d'un sommet bilatéral Poutine-Biden qui a eu lieu en effet début juillet et qui a donné le début, pas à une stabilisation, mais plutôt à une stabilisation de la confrontation en quelque sorte. On a aujourd'hui dans le dialogue russo-américain quelques pistes assez constructives, notamment concernant la maîtrise des armements et le dialogue cyber. Il paraît qu'il y a même les échanges commerciaux, les échanges économiques qui s'améliorent entre les deux pays. C'est ce que Vladimir Poutine avait cité à la dernière séance du club Valdai devant les experts étrangers. Mais évidemment, il y a énormément de points qui ne sont pas réglés, dont l'Ukraine en premier lieu. Donc pour moi, ce sommet-là, c'est un peu dans la suite. C'est le sujet le plus épineux, le plus difficile de la sécurité européenne qui n'a pas été traitée pendant le premier sommet.
Et vous avez raison, c'est le point le plus important de la sécurité européenne. Or, cette rencontre, elle se fait entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Donc, sans les Européens du tout, ça a même des relents de guerre froide. Au fond, c'est vraiment une rencontre très guerre froide que celle des Américains et des Russes. Est-ce que le sous-texte, il dit, de toute façon, moi je parle qu'au patron, parce que les Européens, là-dedans, c'est quantité négligeable. Est-ce que ça dit ça, le sous-texte ?
Côté Vladimir Poutine, c'est assez clair. C'est presque ouvertement qu'il parle des partenaires européens des États-Unis comme des vassaux. C'est vraiment la terminologie qu'on peut entendre côté russe. Donc, ils souhaitent parler directement aux États-Unis, en estimant que c'est eux les vrais maîtres du jeu dans, sur la question de la sécurité européenne. Et les Européens se trouvent assez marginalisés dans l'histoire et assez coincés dans l'impasse du processus de Minsk, qui est un cadre de négociation, en fait, pour régler le conflit à l'est de l'Ukraine depuis 2015.
Qui, pour l'instant, évidemment, ne donne rien, c'est le moins qu'on puisse dire. La stratégie russe, vous l'avez un peu dit, c'est vraiment de voir jusqu'à quel point l'Occident est faible, les États-Unis comme l'Europe d'ailleurs. Et au fond, jusqu'où peut-il mettre les pieds, Poutine, en faisant ça ? Parce que, honnêtement, personne n'ira se faire tuer pour Kiev, on est d'accord, du côté européen ou côté américain. Donc, est-ce que sa marge de manœuvre à lui est bien plus large que, au fond, la marge de manœuvre des Américains et donc de l'OTAN ?
En effet, je pense que personne n'ira se faire tuer pour l'Ukraine et les Ukrainiens en sont assez conscients. Ils ont aussi le parallèle avec ce qui s'est passé en Géorgie en 2008. L'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, il n'y a pas de raison de déclencher l'article 5 qui dit que l'agression contre l'un des pays membres de l'OTAN est considérée comme l'agression contre tous ses membres. Face à cela, Vladimir Poutine, en effet, a plusieurs cartes à jouer. On a vu au début de l'automne avec la crise gazière, on a vu via la Biélorussie avec la crise de migrants.
Exactement.
Tout ça, ça fait beaucoup de foyers de tension. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Vladimir Poutine avait dit à la séance élargie du ministère des Affaires étrangères russe qu'il faut garder les partenaires occidentaux sous tension, sous pression. Il a des cartes pour le faire et un objectif en tête très précis. Et en fait, la semaine dernière, il avait expliqué cet objectif au fond avec le ministre Lavrov, qui est celui d'avoir des garanties durables et écrites sur la sécurité européenne. C'est un peu le péché originel qu'on reproche à Gorbatchev, qui n'a pas demandé des engagements par écrit contre l'élargissement de l'OTAN, mais il ne pouvait pas le faire. À l'époque, il y avait encore le pacte de Varsovie, mais ça, on oublie seulement ce détail et que la situation était extrêmement différente. Et donc, on souhaite réparer, en quelque sorte, cette faute et avoir des engagements écrits. Je pense aussi que Vladimir Poutine commence à penser un peu à l'héritage qu'il va laisser. À part le sujet de l'annexion de la Crimée qui a été saluée en Russie, qui a boosté sa popularité, mais qui reste quand même reconnu par très peu de pays dans le monde, comme le Venezuela ou le Nicaragua, mais même pas par les alliés proches. Je pense que laisser comme héritage politique, géopolitique derrière lui, un peu le sujet réglé de non-élargissement de l'OTAN ou de non-installation des équipements de l'OTAN sur le pourtour des frontières russes, ça, c'est quelque chose que Vladimir Poutine cherche à régler aujourd'hui.
La crainte réelle, est-ce que c'est vraiment une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou est-ce que c'est au fond que l'Ukraine soit, j'ai lu cette expression dans la presse il y a un jour ou deux, utilisée comme une sorte de porte-avions en fait, pour pouvoir y poser des armes ici et là. L'idée d'une adhésion, est-ce que c'est hors de question?
En effet, cette perception, elle a évolué. Il y a un certain temps, c'était l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui était la ligne rouge. Et aujourd'hui, en effet, la crainte côté russe, c'est plutôt que même s'il n'y a pas d'adhésion officielle de l'Ukraine à l'OTAN, je rappelle, c'est quand même quelque chose qui, dans la constitution ukrainienne, aujourd'hui depuis 2017, l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais voilà, la crainte russe, c'est même s'il n'y a pas d'adhésion officielle, que l'OTAN vienne disposer ses installations, son matériel militaire sur le sol ukrainien. Et donc, on est dans une configuration, dans une ligne rouge qui a quelque peu bougé, qui est différente.
Alors, quand même, Tatiana Kastrouyeva-Jean, est-ce qu'on raye, du coup, l'idée que les Russes peuvent tenter quelque chose? Vous l'avez dit tout à l'heure, le seul vrai moment, grand moment de popularité autour de ces questions-là de Vladimir Poutine, ça a été quand il a réannexé, de son point de vue à lui, la Crimée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il veut essayer de refaire le même coup? Je pense à Mariupol notamment, qui serait un couloir formidable pour aller justement jusqu'à la Crimée. Est-ce que c'est totalement hors de question ou est-ce que, oui, cette crainte, elle est quand même diffuse dans la tête de Poutine, dans celle de Biden ou dans celle des Européens?
Dans l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment deux écoles. Une école de « il y aura la guerre, il y aura l'invasion », et l'autre qui est, pour reprendre l'expression d'un chercheur, « heavy metal diplomacy », donc la diplomatie qui fait jouer les muscles militaires, mais pour monter plutôt les enchères. Très honnêtement, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine. Il y a aussi très peu d'experts qui ont l'accès aux renseignements militaires pour pouvoir calculer est-ce que les troupes accumulées, le matériel accumulé est suffisant pour l'invasion, etc. Moi, j'analyse plutôt le coût et les risques par rapport aux gains éventuels. Et je pense que faire ce genre de... La Crimée, c'est un cas assez unique. Il y avait un terrain favorable pour l'annexion. La Russie n'a pas recommencé ça depuis. Et les conflits gelés, d'autres conflits gelés sur le territoire des anciennes républiques soviétiques, il n'y a que la Crimée, en fait, qui a été annexée.
Mais une telle, comment dirais-je, une vision de l'Ukraine chez Vladimir Poutine, qui l'Ukraine, c'est nous. Je ne sais pas si je me souviens plus si c'est lui qui avait eu cette phrase-là moment-là, mais quasiment...
Oui, il parle du peuple divisé.
C'est ça, il y a une relation très très particulière avec l'Ukraine en particulier.
Voilà, et dans son dernier article, en été, il met quasiment en cause l'existence de l'Ukraine en tant qu'État indépendant, alors que l'histoire en a voulu autrement depuis 30 ans. Et en fait, je reviens juste un instant à mon idée de risque. Les risques sont quand même énormes pour Vladimir Poutine. C'est de nouvelles sanctions, c'est le projet de Nord Stream 2 qu'il a eu autant de mal à obtenir en été et qui risque de tomber à l'eau. C'est aussi la population en Ukraine, dans les régions qui sont sous le contrôle du gouvernement ukrainien, qui risque d'être extrêmement hostile à cette invasion. C'est aussi l'armée ukrainienne, même si c'est pas comparable avec l'armée russe, mais qui peut infliger quand même des pertes à l'armée russe.
Voilà, elle va beaucoup mieux qu'en 2014, on est d'accord, elle a été fournie par les Américains, fournie par les Turcs, fournie par d'autres.
En 7 ans, elle va beaucoup mieux, mais après, face à une puissance nucléaire comme la Russie, évidemment, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est même pas d'envahir, mais comment ensuite établir l'autorité et garder ces territoires. Et ça, je pense que Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un d'irrationnel pour ne pas calculer les pertes, les coûts et les risques que tout cela puisse impliquer.
Et vous faites bien de le rappeler, Tatiana Kastoueva-Jean, parce qu'on a tendance à oublier justement qu'il y a toujours une guerre en Ukraine, qu'elle existe depuis 7 ans. C'est certes une guerre à bas bruit, comme on dit, parce qu'on n'en entend plus parler, mais il y a eu 13 000 morts. Cette guerre n'est pas finie, on est d'accord, il y a des morts tous les jours en ce moment dans ces frontières.
Absolument. Il y a même presque maintenant 14 000 morts depuis 2014, et il y a 1,5 million de personnes déplacées, une partie vers l'Ukraine, une autre partie les gens qui sont partis vers la Russie. Donc c'est une guerre au cœur de l'Europe en fait, et dont on ne se rend pas assez compte. Je suis allée à la ligne de contact il y a 3 semaines. C'est quand même frappant de voir au XXIe siècle en Europe cette ligne de séparation entre les républiques séparatistes et l'Ukraine. À d'autres endroits, pas où j'ai été, mais à d'autres endroits, vous avez vraiment des tranchées, ça rappelle quasiment des images de la guerre 14-18, et c'est extrêmement choquant. Il y a encore des morts, en effet, toutes les semaines, notamment par les tirs de snipers.
Et alors, une guerre, vous le dites, et aussi des exactions. Il est sorti un livre qui a fait grand bruit en Ukraine, qui est signé Stanislas Assayev, vous en avez peut-être entendu parler.
Qui est à Paris ces jours-là, d'ailleurs.
Exactement.
Hein, je vous demande si c'est hier ou aujourd'hui.
Exactement, qui a été enfermé dans un camp qu'on appelle le camp Isolatsia. Et c'est ce que va nous raconter Stéphane Fian, qui justement a pu le rencontrer, puisqu'il est passé à Paris avec son livre ces deux derniers jours.
Au début de la guerre en 2014, Stanislav Assayev décide de rester à Donetsk, sa ville natale, désormais sous le contrôle des séparatistes pro-russes. Dans la clandestinité, sous pseudonyme, il devient journaliste pour des médias ukrainiens et pour Radio Free Europe. En mai 2017, à l'issue d'un reportage à Donetsk, il est arrêté par les services de sécurité séparatistes. Et c'est alors que l'enfer commence.
Au départ, ils m'ont tabassé, puis ils m'ont envoyé dans une autre pièce. Quand j'ai dit que je ne signerais rien, ils ont commencé à m'envoyer des décharges électriques avec un vieux téléphone de campagne. Ils ont branché une électrode sur mon pouce et l'autre sur mon oreille gauche. Au bout d'une heure, j'ai fini par signer un document admettant que j'étais un agent des services secrets ukrainiens.
Par la suite, Stanislav Assayev est conduit dans un lieu de détention appelé Isolation, aménagé dans une ancienne usine, avant la guerre un centre d'art contemporain. Le journaliste y restera 962 jours.
La moitié des prisonniers, ce sont des séparatistes tombés en disgrâce, des combattants, des fonctionnaires, voire des ministres. L'autre moitié, ce sont des citoyens lambda ou des personnes qui ont une position pro-ukrainienne, qui sont actives sur les réseaux sociaux et qu'il faut mettre à l'isolement.
Le système du camp Isolatsia, c'est une violence quotidienne inouïe, des viols systématiques, mais aussi des exécutions sommaires et des corps enterrés dans la cour de l'usine. Difficile de connaître le nombre de victimes, mais selon Stanislav Assayev, plusieurs centaines d'individus sont passés par les cellules de ce qu'il qualifie de camp de concentration.
Isolatsia est géré par les forces spéciales des services de sécurité séparatistes. Le camp est dirigé par un individu surnommé Lénine, qui est lui-même un officier des services russes. C'est le FSB qui contrôle Isolatsia.
Selon Stanislav Assayev, le système mis en place dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk n'est rien d'autre que du totalitarisme.
Je n'ai aucun doute, il s'agit là d'un camp de concentration. Ça rappelle les camps de concentration nazis. Pas les camps de la mort, mais ceux des années 30 où on enfermait des Allemands, l'intelligence l'intelligentsia qui était contre le nazisme. C'est la même chose ici. La moitié des détenus sont qualifiés d'ennemis de la République. C'est l'URSS des années 30.
D'après plusieurs sources, le camp Isolyatsia est toujours en activité, mais son tortionnaire principal a récemment été arrêté à Kiev après qu'il se soit rendu au service de renseignement ukrainien. Il y a un an, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ukraine de l'Est. Le témoignage de Stanislav Vassiliev pourrait constituer la base d'un futur procès international.
Et merci à Stéphane Suant pour ce reportage et pour cette rencontre. Tatiana Castouet-Vajon, on va rappeler quand même qu'on est à même pas 3 heures d'avion ici. Il y a 1000 choses, j'imagine, qu'on ignore complètement de ce qui se passe dans ces enclaves séparatistes aujourd'hui.
Absolument, notamment l'existence des prisons, des tortures, des détentions illégales. On en a beaucoup parlé au début du conflit, en 2014-2015. Ensuite, on a entendu moins parler. Le sujet a été remis sur le tapis, notamment en décembre 2019, parce qu'il y a eu la rencontre à Paris dans le cadre du format Normandie, où il y a eu un accord qui a été trouvé sur l'échange d'un certain nombre de prisonniers d'un côté et de l'autre. Et je pense qu'il y en a encore qui restent, et c'est un sujet dont il faut pouvoir discuter.
Alors, dont on discute très peu puisqu'on ignore évidemment ces choses-là. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce que dirait la population russe, de toute façon, d'une accélération de la part de l'armée russe dans dans le Donbass. Et au-delà, je vous pose la question parce que vous l'avez un peu évoqué, Vladimir Poutine, économiquement, son pays va mal. Il y a probablement autour de 600 000 morts, si ce n'est plus, liés au Covid en Russie en ce moment. C'est pas un président qui va bien. Il est très autoritaire, mais il va pas bien, Vladimir Poutine, aujourd'hui.
Il y a, pour la population russe, en fait, en effet, il y a une certaine perte de popularité de Vladimir Poutine, mais qui reste quand même encore très haut dans les sondages, à plus de 60%, 61% je crois. C'est évidemment pas comparable à l'époque de l'annexion de la Crimée, où ça a pu monter jusqu'à 86%. Néanmoins, c'est encore extrêmement élevé, et la situation économique aujourd'hui ne permet pas de parler d'éventuelles protestations, de la déstabilisation du régime politique à cause de cela. Donc Vladimir Poutine a encore des billes, il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, il puisse tomber. Et par rapport à l'Ukraine, c'est très intéressant et parfois c'est schizophrénique, l'opinion publique. Parce que d'une part, l'opinion publique a un mal énorme à imaginer qu'il y a vraiment une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une sorte de déni et la non-croyance que le pays qui a vaincu le fascisme, etc., puisse faire quelque chose de mal dans sa politique étrangère. Et une guerre contre l'Ukraine aujourd'hui n'aura absolument pas ne provoquera pas d'élan patriotique, comme on a pu voir au moment de l'annexion de la Crimée. Justement, l'annexion de la Crimée, c'est pas de victimes, pas de bris de bottes, ce sont les petits hommes verts, polis, qui ont mené l'opération sans verser du sang. C'est ça ce qui donne de la popularité. Et pas du tout une guerre avec les victimes éventuelles. Et les préoccupations de la population russe aujourd'hui sont ailleurs. C'est la situation économique, c'est la perte du pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Donc les sujets de la politique intérieure et pas du tout la guerre.
Oui, ce qui peut nous servir de conclusion, c'est une alerte à l'instant de l'AFP, on verra ce que ça donne, mais qui dit que Washington est prête à répondre favorablement aux demandes de présence militaire accrue en Europe de l'Est. C'est ce que dit apparemment un haut responsable. On peut dire sans trop se tromper, Tatiana Castouet-Vajon, qu'on n'est pas parti pour
le prochain spirale. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que vous disiez, l'escalade dans la désescalade. Et on verra effectivement jusqu'à quel point. Je vous remercie beaucoup de votre passage d'un jour dans le monde. À très vite. Merci.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est une pièce de théâtre, figurez-vous, jouée en Palestine dans Le Bruit du Monde, l'Assemblée des femmes d'Aristophane, qui résonne tellement bien en 2021, précisément en Palestine où la pièce est jouée. Et pour aller jusqu'à 19h ensemble, la troupe habituelle, Sébastien Legénie sous les radars.
La junte birmane enferme ses opposants en prison, mais elle tue aussi les simples manifestants avec des voitures béliers.
Sébastien Paour, Le Monde selon Joe Biden. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne. Beaucoup de critiques de Kamala Harris et les départs qui se multiplient dans l'équipe de la vice-présidente.
Et Sébastien Madvon, non? Parce qu'il faut s'appeler Sébastien apparemment lundi ici.
Bah, donc
allez-y, allez,
bonsoir
Franck,
Fabienne.
Le monde d'après.
Un secteur ne connaît pas la crise liée à la pandémie. Les ventes d'armes, nouveau record battu l'an dernier.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète ce n'est pas fini. Le passeport, les États-Unis, tiens, lui aussi avec la Californie, avec le trio Gabriels. Blame sur France Inter.
Morning turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a shame.
if it's where I wanna be. Halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls, who's gonna catch me when I fall down?
Le bruit du monde ce soir est en Palestine et nous allons au théâtre. Des comédiens palestiniens dirigés par deux metteurs en scène français jouent l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Cette comédie politique écrite il y a 2500 ans à Athènes raconte la prise du pouvoir par les femmes à la place de leur mari. Adaptée en Palestine, elle est d'une incroyable modernité. Le reste, c'est Frédéric Mettezo qui raconte.
Au petit matin, les femmes volent les vêtements de leurs époux et les remplacent au Parlement. Sur scène, les actrices Imane, Fatima, Shadine, Amina et Maïs sont en costume cravate trop large façon Charlie Chaplin et portent fausse barbe, chapeau ou casquette gavroche trop grande. Shadine Salem mène la rébellion.
I'm the commandante.
Je suis la commandante.
The women of this country.
Dans la pièce, les femmes de ce pays constatent que les hommes disposant de l'autorité sont corrompus. Donc elles décident de fixer les règles et de faire les choses bien. J'aime vraiment ce rôle. Ça montre beaucoup de ce que nous sommes en tant que femmes palestiniennes. C'est une chance pour nous de dire quelque chose, de porter la voix des femmes.
Si les femmes ont dérobé les costumes de leurs maris, alors ils n'ont plus rien à eux à se mettre. Comme Amer Khalil, directeur du Théâtre National Palestinien, El Akawati à Jérusalem-Est et acteur dans la pièce, grotesque dans son costume de scène.
Moi, je suis dans une chemise de nuit et le tablier de la cuisine parce que dans la pièce, je coupe les légumes pour le soupe.
Donc, il faut expliquer aux auditeurs, vous êtes un grand monsieur d'1m80, très carré, avec une moustache.
120 kilos.
Combien ?
120 kilos.
La moustache, la barbe, les poils qui sortent, le catogan. Mais vous êtes habillé en ménagère.
En ménagère. Ça, c'est le théâtre. On aime beaucoup faire ça.
Plus sérieusement, cette inversion des rôles et ces femmes qui mettent les costumes des hommes et les hommes qui mettent les costumes des femmes, c'est quelque chose de très fort dans la société palestinienne qui est plutôt conservatrice, n'est-ce pas ?
Oui, ça c'est très fort. Cette image, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vraiment comprendre ça.
J'ai toujours rêvé d'être la présidente de la Palestine.
Dans l'Assemblée des femmes, Aristophane proclame l'égalité absolue, la fin du salariat et de la propriété, l'abolition des États et des frontières. Mais la pièce ne se limite pas au texte original. Régulièrement, des vidéos de témoignages de femmes palestiniennes d'aujourd'hui sont projetées sur trois grands draps blancs tendus sur la scène, complètement vides et sombres. C'est le plus dans cette adaptation, raconte Roxane Bornia, la metteuse en scène.
L'idée, c'était de croiser cette pièce et d'aller sur le terrain, tout un travail d'interview avec des femmes palestiniennes où elles peuvent parler de leur place aujourd'hui, de comment elles se sentent représentées ou pas dans cette société et quels seraient leurs rêves de vivre ensemble. Et donc ces interviews tricotent, feuilletonnent dans la pièce d'Aristophane. Et le grand message, c'est qu'elles ont les droits, les lois sont votées et pourtant il y a une espèce d'inertie, une demande immense, vraiment, c'est l'accès à l'éducation.
Et ces femmes palestiniennes, elles parlent franchement et sans tabou. L'actrice Maïs Assi est impressionnée par la force de leur témoignage.
Être libre de sortir, de choisir leur partenaire, leur métier, ou vivre en famille avec un mari ou bien de façon indépendante. Les femmes veulent juste la liberté, comme toutes les femmes dans le monde.
Depuis la première à Jérusalem, la pièce tourne partout en Palestine. Ramallah, Bethléem, Hébron, Jenin, avec en toile de fond le conflit toujours pas réglé entre Palestiniens et Israéliens, rappelle Maïs Assi.
D'abord, ça n'est pas un conflit puisque c'est une occupation. Et oui, nous avons une situation spéciale en Palestine, car nous n'avons pas encore de nation. Voilà ce dont on parle dans le spectacle. Nous voulons une nation sans barrages, sans soldats, sans armes, sans frontières. On veut juste vivre tous ensemble. Je suis de Ramallah et je n'ai pas la permission d'être ici à Jérusalem.
Officiellement, vous ne devriez pas être ici.
Oui, mais je suis là.
Le texte est en arabe, avec des surtitres projetés en anglais et en français. Le consulat général de France à Jérusalem a soutenu le projet malgré les difficultés politiques et sanitaires. Pour Iman Aoun, une autre comédienne, le théâtre palestinien est bien vivant.
Pas seulement le théâtre, mais aussi la danse, le cirque, la musique, le cinéma, la photographie. C'est très important parce que au 48, avec la catastrophe, plein de gens, de populations échappent la guerre. Aussi, on a quitté la Palestine. Donc, la culture, c'est la meilleure chose qu'on donne au monde. C'est aussi ce qui garde l'esprit et la résistance du peuple.
L'Assemblée des femmes d'Aristophane avec les acteurs du Théâtre national palestinien El Akawati. Merci beaucoup. Merci à eux et merci à vous, Frédéric Mettezo. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, nous sommes dans les rues de Rangoon, la capitale birmane, secouée hier par l'un des pires épisodes de la répression militaire en cours.
On parle évidemment beaucoup depuis ce matin de la condamnation d'Aung San Suu Kyi, l'ex-chef du gouvernement civil, renversé en février dernier par un coup d'État. 2 ans de prison ferme, rappelons-le, lors d'un simulacre de procès organisé par la junte. Mais à côté du calvaire vécu par cette ancienne icône de la démocratie, les Birmans payent eux aussi un très lourd tribut à cette guerre civile. Ainsi, hier matin, le pays a connu un événement d'une rare violence. Un véhicule conduit par des militaires birmans dans les rues de Rangoon a volontairement foncé sur des manifestants pro-démocratie. On entend ici une vidéo tournée par les manifestants eux-mêmes. Ils sont à peine une vingtaine marchant dans la rue pacifiquement avec des pancartes marquées « Se libérer de la peur », une célèbre phrase d'Aung San Suu Kyi. Ils scandent « Rendez-vous, rendez-nous, rendez le pouvoir au peuple » quand une camionnette arrive derrière eux à très vive allure et percute plusieurs d'entre eux. Des témoins racontent que les soldats sautent ensuite de leur voiture et commencent à tirer. À ce stade, les bilans officiels parlent de 8 blessés, mais d'autres sources locales évoquent plusieurs morts. Un acte condamné par les États-Unis, l'ONU, l'Europe, qui selon les ONG rappelle les méthodes des terroristes à la voiture bélier. En 10 mois, depuis le retour des militaires au pouvoir à Rangoon en février, la répression aurait fait plus de 1300 morts et plus de 10 000 prisonniers.
Direction l'Espagne, où une station de ski est au cœur d'une féroce bataille politique.
Les pistes de Puerto de Navacerrada, c'est une station connue seulement des Madrilènes. Elle est située à une heure de route à peine de la capitale espagnole. Une station née dans les années 40, qui a connu son apogée dans les années 60 à 80, du temps où il y avait encore de la neige et pas trop de trafic routier. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige ou presque. Il y a des bouchons monstres tous les week-ends. On entend là une membre de la famille Fernandez Ochoa, l'un des frères a remporté la médaille d'or en slalom au JO d'hiver de 72. À l'époque, dit-elle, nous avons appris à skier ici, là où tous les Madrilènes ont commencé. Il y avait 2 à 3 mètres de neige chaque année, tout l'hiver. Aujourd'hui, il ne neige plus comme avant. En effet, la station est victime du réchauffement climatique. Augmentation de la température de 2 degrés en moyenne et des chutes de neige de 25% moins importantes. Résultat, au printemps dernier, le gouvernement espagnol, propriétaire des terrains, a décidé de ne pas renouveler les concessions, de démanteler les remontes-pentes et de restituer la station à son état naturel. Depuis, le dossier est devenu politique, le gouvernement de gauche face à toutes les institutions régionales aux mains de la droite, une bataille devant les tribunaux est en cours. En attendant, la station de ski en profite pour laisser ses pistes ouvertes et les forfaits ont été vendus pour cette saison illégalement.
De nouvelles stars font leur apparition sur les réseaux sociaux, Sébastien, en Asie, des influenceurs virtuels aux revenus bien réels.
Oui, on connaissait les influenceurs tout court, ces jeunes stars des réseaux suivis par des millions d'internautes et qui font la promotion d'un produit de beauté, d'un jeu, d'une agence de voyage. Eh bien, en Asie, et tout particulièrement au Japon ou en Thaïlande, ces influenceurs sont désormais fictifs, virtuels, des personnages créés par ordinateur, réalisés en 3D, comme celui-là.
Hi, I'm Bangkok.
Voilà, je vous présente Bangkok Naughty Boo. J'ai éternellement 17 ans, dit-il. Je suis non-binaire. Je rêve de devenir une pop star, voix robotique, cheveux fluo, peau impeccable, visage inspiré des mangas et de vrais Thaïlandais aussi rencontrés dans la rue. Bangkok Naughty Boo vante la qualité de tels vêtements, de tels groupes de musique auprès de ses abonnés sur Instagram. Une nouvelle génération de stars, donc, qui a tous les avantages des influenceurs du net sans les inconvénients. Éternellement jeune, toujours à la mode, capable de faire des heures de tournage, jamais atteint par le scandale, il ne parle ni de politique ni de sexe. Bref, des VIP parfaits pour les entreprises qui ont flairé là le bon coup. Au Japon, une youtubeuse virtuelle avec ses 3 millions d'abonnés a récolté en un an, grâce à sa communauté, plus de 2 millions d'euros de dons.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien, j'ai envie de dire au secours aussi là tout de suite, vous voyez, vous partez en tout cas avec Harry Nilsson, une antiquité puisqu'il est mort avant internet, vous imaginez ce qu'il aurait vu de cette époque là, à l'époque en tout cas on se parlait en vrai, même pour ne rien dire. Everybody's talking.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.
let you leave.
Harry Nilsson, Everybody's Talking sur France Inter. Justement, tiens, il y en a une qu'on n'entend pas parler beaucoup. Sébastien Paour va nous le raconter. C'est l'Amérique selon Biden.
France Inter, un jour dans le monde. I pledge to be a president who seeks not
to divide. Et Sébastien Paour, l'Amérique de Biden, plutôt l'Amérique de Kamala Harris. Ce soir, voilà comment la foule acclamait la future vice-présidente américaine. C'était pendant la campagne à Oakland.
Ladies and gentlemen, please welcome Kamala Harris.
Voilà Sébastien, mais ça c'était avant, les choses ne sont plus du tout aussi roses.
Ah non, l'euphorie du début où on ne parlait que d'elle ou presque, tout cela a bien changé, l'étoile a un peu pâli et on quitte de plus en plus son navire. Sa porte-parole, Simone Sanders, vient d'annoncer qu'elle quittait son poste. Porte-parole et principale conseillère, Simone Sanders était un véritable paratonnerre contre les critiques nombreuses dont fait l'objet la vice-présidente. C'est une stratège politique très respectée ici, elle a 31 ans, elle a été porte-parole de la campagne de Bernie Sanders en 2016, puis principale conseillère de Biden candidat en 2020. Sur fond de troubles liés à la mort de George Floyd, on précise qu'elle est noire de peau. Et donc, personnage central aussi de l'équipe Harris. Elle dit qu'elle s'en va parce que 3 ans, ça use à travailler pour Biden puis pour Harris. Et elle n'est pas la première à quitter Kamala Harris, dont on critique la gestion du dossier migratoire ou le caractère très autoritaire. La responsable de la communication, Ashley Etienne, une ancienne de l'administration Obama, a aussi annoncé son départ. Et 2 autres sont prévus, ceux du directeur des opérations de presse et de l'adjoint en charge des affaires intergouvernementales.
Eh bien, dites-moi, drapeau en berne hier au Congrès, enfin depuis hier d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Depuis hier, depuis l'annonce de la mort de Bob Dole, l'Amérique rend hommage à l'un de ses hommes d'État, comme il n'y en a peu dans l'histoire des États-Unis. Ça, ce sont les mots de Joe Biden dans le communiqué de la Maison-Blanche. Bob Dole, disparu hier, sénateur depuis pendant 27 ans, 3 fois candidat à la présidentielle, battu pour l'investiture par Reagan en 80, par Bush père en 88, finalement candidat des Républicains en 96, mais qui échoue face à Clinton, et le voici. 3 jours après, on est le 8 novembre 96, chez David Letterman sur CBS. Asseyez-vous, sénateur.
Bob, what have you been doing lately?
Apparently not enough. In any event.
Alors, Letterman lui demande ce qu'il a fait ces dernières heures et Bob Dole répond qu'il n'en a sans doute pas fait assez. Apparemment, l'humour et la résilience comme moteur, comme dans cette autre archive en 97, quand Bob Dole reçoit de Clinton, devenu donc président, la médaille de la liberté et qu'il fait semblant de se tromper de discours. Il commence son propos comme ça.
I, Robert J. Dole.
Moi, Bob Dole.
Do solemnly swear. Hop. Sorry, wrong speech.
Voilà, il fait mine de prêter serment, vous l'avez compris, comme s'il avait été élu président et il s'excuse, c'est pas le bon discours. Son parcours fait un peu penser à celui de John McCain, vétéran, candidat à la présidentielle aussi. Dole a été très gravement blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'hôpital pendant 3 ans, il parvient à remarcher après de nombreuses opérations. Son bras droit a paralysé, le natif du Kansas fera une carrière politique donc très longue, sera le leader des Républicains pendant 11 ans. Il fait la une des journaux ici aujourd'hui et Bob Dole avait 98 ans.
Allez Sébastien, vous voulez terminer avec la belle histoire d'une équipe de basket du Michigan.
Ouais, c'est le Washington Post qui raconte cette aventure des jeunes basketteurs de l'école Notre-Dame de Pontiac. 14 élèves à qui leur entraîneur a demandé de créer un groupe de discussion pour organiser les déplacements vers les matchs ou pour communiquer les heures de rendez-vous. Ils ont trouvé tous les numéros de téléphone, ils ont fait ce groupe, mais ils se sont trompés d'un chiffre sur le 14e numéro et ils se sont retrouvés à discuter, non pas avec l'un de leurs coéquipiers, mais avec Sean Murphy Bunting. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, moi non plus, je le connaissais pas. C'est le cornerback des Tampa Bay Buccaneers. C'est l'équipe championne en titre de foot américain ici. Et il leur a fait rapidement remarquer, je suis pas votre collègue, je joue au foot, etc. Tout ça dans le groupe de discussion. Les élèves ne l'ont pas cru. Alors il a envoyé un selfie de lui devant, dans les vestiaires avec son casque et tout. Les collégiens étaient toujours un peu sceptiques. Finalement, ils ont organisé un appel de groupe en visio pour préparer un déplacement à l'occasion d'un match. Et donc Murphy Bunting s'est retrouvé dans cet appel en visio. Et là, il a sorti l'arme atomique pour prouver qu'il n'était pas le basketteur que les enfants croyaient. Il a fait venir dans l'écran l'un de ses coéquipiers. Et qui c'est ? Eh bien, c'est le quarterback des Buccaneers lui-même, s'il vous plaît. La star Tom Brady himself. Et là, enfin, les collégiens l'ont cru. On les voit sur les captures d'écran avec les visages complètement figés. Brady qui fait coucou et les 13 basketteurs qui n'en croient pas leurs yeux. Comme quoi, il faut vraiment être une vedette pour attirer l'attention des jeunes.
Et c'est vrai que c'est Tom Brady, c'est un peu, je sais pas, c'est Kylian Mbappé, quoi, si on veut comparer. Non,
peut-être encore plus. Au moins. Voilà. Peut-être encore plus, ouais. Ici, c'est fou. Ouais.
Merci beaucoup, Sébastien. On se retrouve lundi prochain, ou peut-être avant d'ailleurs.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Ce soir, Franck, les ventes d'armes se portent très bien, merci. L'an dernier, la pandémie de Covid n'a eu aucun impact sur les géants de l'armement. D'après une étude publiée aujourd'hui, les 100 plus grands groupes du secteur ont battu un nouveau record de ventes. On l'a encore vu la semaine dernière pendant le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le marché de l'armement reste essentiel dans le jeu des alliances diplomatiques.
531 milliards de dollars, voilà le chiffre d'affaires des 100 plus grands groupes mondiaux d'armement. 2020. L'économie mondiale a chuté de 3% l'an dernier. La pandémie, le confinement ont touché tous les secteurs, tous sauf un, donc l'industrie de la défense. Les ventes d'armement et de services militaires ont même augmenté de 1,3% sur un an. C'est ce que nous dit le rapport d'un organisme très réputé dans ce domaine, le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Depuis 2015, le chiffre d'affaires du top 100 du secteur ne cesse d'augmenter, plus 17% sur la période. Dans l'ensemble, donc, ces entreprises ne connaissent pas la crise. Elles ont pu bénéficier du soutien des États pendant la pandémie. Certaines estiment que le confinement a eu ou aura un impact sur leurs ventes, mais les problèmes logistiques d'approvisionnement, plus importants sans doute cette année, n'ont eu qu'une incidence limitée sur les chiffres de 2020. Et puis l'explication principale, Fabienne, tient en une phrase. Les gouvernements du monde entier sont toujours aussi demandeurs de matériel et de services militaires.
Et en tête du classement, on trouve bien sûr les Américains.
Ce n'est pas une surprise, les États-Unis dominent largement le marché. Ils représentent 54% du chiffre d'affaires de ce top 100. Aux 5 premiers rangs, on ne trouve que des entreprises américaines et c'est le cas depuis 2018. Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman et General Dynamics. Premier européen, le britannique BAE Systems à la 6e place. Airbus se classe 11e. Deux Français figurent dans le top 25, Thales et Safran. Dassault n'est que 32e, mais devrait remonter au classement l'an prochain après, entre autres, le méga contrat signé vendredi aux Émirats en présence d'Emmanuel Macron. On le disait, 80 avions Rafale. On retient aussi de ce rapport la progression constante de la Chine, deuxième fabricant mondial d'armes. Trois groupes chinois, qui appartiennent tous à l'État, apparaissent dans le top 10. Pékin est devenu un acteur majeur du secteur. Le pays ne cesse de renforcer et de moderniser son armée. Et dans certains domaines, les technologies développées par la Chine sont les plus avancées au monde. On peut citer le système de navigation Beidou, concurrent du GPS américain, à la fois civil et militaire.
Alors, le marché de l'armement est aussi très dynamique, Franck, en raison de l'instabilité dans certaines régions et du jeu des alliances entre les pays.
Voilà, des années que de nombreux États se réarment. Le terrorisme menace plusieurs régions, les ambitions chinoises inquiètent le Pacifique, devenu une priorité pour les États-Unis. La Russie menace l'Ukraine, on en parlait ce soir, l'Est de l'Europe, les Pays-Baltes. La Turquie déstabilise la Méditerranée, l'Iran et la Corée du Nord progressent vers l'arme nucléaire. La liste est longue, j'enfonce des portes ouvertes, on parle de ça tous les soirs ici dans Un jour dans le monde. Dans ce contexte, pas question d'être seul, il faut nouer des alliances. Et de ce point de vue, le contrat d'armement demeure une valeur sûre. Exemple, Vladimir Poutine est aujourd'hui en Inde, son deuxième voyage seulement depuis le début de la pandémie. Eh bien, la vente des S-400, les systèmes russes de défense antiaérienne, est évidemment au menu. On l'a dit, Emmanuel Macron a concrétisé la semaine dernière un partenariat avec les Émirats grâce à à un contrat colossal incluant 80 rafales. Avant cela, l'Égypte, la Grèce, la Croatie ont été séduits par l'avion de combat français. À chaque fois, c'est un moyen de joindre l'utile au stratégique et c'est essentiel dans le jeu diplomatique mondial. Voilà pourquoi ni les appels à la modération des ONG, ni même donc le ralentissement économique international n'ont une influence sur le marché de l'armement.
Franck Madvon et le monde d'après, merci beaucoup.